3 milliards d'euros échangés sur les valeurs du SRD. Si on se penche sur le marché des changes européens maintenant, eh bien le dollar continuait à se reprendre un petit peu, à rebaisser un petit peu face à l'euro. La monnaie unique qui cotait 1,3379 soit un gain de 0,86% par rapport à la devise européenne. Voilà clair, je vous rappelle le CAC 40 toujours bloqué, mais si on se réfère aux indices européens, eh bien on est plutôt dans le vert sur le vieux continent à la Bourse de Paris. Pour France Inter, Cédric Decoeur.
Merci Cédric. Pas de blocage du côté des courses. Cagnes-sur-Mer dans la première, premier le 4, 5,90 et 2,20. Deuxième l'As, 1,50. Et puis l'arrivée du Quintet. Pour gagner, il fallait jouer le 3, l'As, le 12, le 15 et le 11. Vous écoutez France Inter, il est presque 14h04. Et oui, déjà, bonjour Patrice Gélinet, c'est à vous.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, une civilisation et un peuple en voie de disparition, les Indiens d'Amérique du Nord. Autrefois, j'allais comme le vent. Aujourd'hui, je me rends à toi et tout est fini. Géronimo. Dominant d'histoire. Arrivé sur le continent américain plus de 15 000 ans avant Christophe Colomb, ils ont vécu pendant des siècles à l'écart du reste du monde. Dans les forêts de l'actuel Canada et du nord des États-Unis, dans les grandes plaines du Middle West et les déserts du Nouveau-Mexique, les Algonquins, les Hurons, les Iroquois, les Cheyennes, les Comanches, les Apaches et les Sioux vivaient de la pêche, de la chasse aux bisons et de l'agriculture, sans imaginer le cataclysme qui allait un jour les effacer de l'histoire. En octobre 1492, trois caravelles venues d'Espagne découvraient une terre et un peuple inconnus. Persuadé, on le sait, qu'il était arrivé à l'est des Indes, Christophe Colomb donnait le nom d'Indien aux premiers habitants d'un continent qu'on n'appelait pas encore l'Amérique.
Toi.
Utapan.
Utapan. Moi, Cristobal.
Cristobal.
21 octobre 1492. Je crois que nous avons retrouvé le jardin d'Éden. Assurément, c'est ainsi qu'était le monde au commencement des temps. Si les indigènes doivent être convertis à nos usages, alors ce sera par la persuasion et non par la force. Je crois que plus jamais personne ne reverra cette terre comme nous, pour la première fois. Nous venons en hommes de paix et d'honneur. Ces êtres ne sont pas des sauvages et nous ne le serons pas non plus. Traitez-les comme vos propres femmes et vos propres enfants. Respectez leurs croyances. Le pillage sera puni par le fouet, le viol par l'épée.
Marilyn Frayssé, bonjour.
Bonjour Patrice.
Alors, quand on lit votre très beau livre sur les Indiens, publié aux éditions Duchesne, on mesure à quel point la politique des Espagnols, puis des Anglais et des Français vis-à-vis des Indiens s'est écartée des idéaux de Christophe Colomb, qui a été le premier à les appeler les Indiens, parce qu'il croyait, on le sait, avoir atteint les Indes, et ne savait pas qu'il venait de découvrir un nouveau continent. Au fond, dès le début, les rapports entre les Européens et les Indiens, ça commence par un malentendu, celui du nom que leur donne Christophe Colomb.
Oui, tout à fait, puisque Colomb est à la recherche par la voie de l'Ouest, donc des Indes, au pluriel. Et effectivement, quand il arrive dans ces îles qui sont les Bahamas, eh bien, il croit qu'il vient de toucher des îles qui sont quelque part au large du Japon, qu'on appelait Cipango à l'époque, ou au large de la Chine, le Cathay. Il aura quand même, lors de ses voyages ultérieurs, des doutes. Il parlera d'un nouveau monde et il s'interrogera. Alors effectivement, pour lui, ce sont des Indiens, Indios, et ça va rester des Indios, Indians, Indiens, pour toujours.
Un mot qui recouvre des réalités très différentes, selon qu'il s'agit des Indiens d'Amérique centrale ou du Sud, qui ont laissé des civilisations importantes, très puissantes derrière eux, que ce soit les Mayas, les Aztèques ou les Incas. Pour ce qui concerne les Indiens d'Amérique du Nord, on n'a pas l'impression qu'il y ait la même chose. Et puis alors, vous évoquez aussi l'importance du nom, parce que plutôt que de les appeler les Indiens, on pouvait les appeler les Amérindiens, ou encore, et je crois que ça figure sur la carte d'identité de tous les descendants d'Indiens d'Amérique du Nord, les Native Americans. C'est comme ça qu'on les appelle aux États-Unis.
Aujourd'hui, c'est comme ça, oui, qu'on les appelle en termes, je dirais, politiquement corrects, mais c'est vrai que beaucoup, même d'entre eux, continuent à dire « I'm an Indian », parce que comme ça, tout le monde comprend. Et au Canada, il y a un autre terme qui est d'ailleurs inscrit dans la nouvelle constitution canadienne, c'est « Première Nation ». Donc ça, ce sont des termes qui reconnaissent au moins un fait, c'est que ces gens-là étaient présents sur le continent nord-américain avant les Européens. C'est très important, ça a d'énormes conséquences politiques et juridiques, puisqu'il y a beaucoup de procès. Alors, pour revenir à ce que vous disiez sur ces sociétés brillantes de la Mésoamérique et du Mexique, il y a eu tout de même, dans le couloir mississippien, cet immense fleuve quand même qui est un peu la colonne vertébrale, si vous voulez, de l'Amérique du Nord, il y a eu des civilisations importantes, très hiérarchisées, avec des agglomérations quand même de plus de 10 000 personnes. Il y en a une notamment qu'on a retrouvée près de Saint-Louis. Et ces cultures avaient disparu, pour des raisons d'ailleurs qui demeurent aujourd'hui encore assez mystérieuses, quand les Européens sont arrivés. C'est-à-dire sont des cultures qui s'étaient éteintes autour du XIIIe siècle. En revanche, quand les Français sont arrivés dans le sud du cours du Mississippi, chez les Natchez, des populations quand même reliées aux populations mexicaines, ils ont été étonnés justement de voir des grandes agglomérations, mais très vite, malheureusement, les choses ont mal tourné, donc on n'a pas pu beaucoup les décrire, ces agglomérations.
Vous avez évoqué, Marianne Fraissé, vous avez évoqué le Mississippi. Alors, ça fait partie de tous les noms, on l'ignore, qui viennent au fond des Indiens. Dans la toponymie, on sent bien, les Américains ont bien reconnu l'origine, l'importance des Indiens comme premiers Américains. Vous citez des États comme l'Alabama, le Dakota, le Colorado, qui sont des noms de tribus indiennes, le Mississippi qui veut dire grande rivière, l'Oklahoma qui veut dire terre de l'homme rouge, Niagara, au tonnerre, Chicago, l'endroit où pousse l'ail. Alors, ça, c'est vrai que de cette manière, au moins, les États-Unis, on devrait les appeler comme ça, reconnaissent qu'avant eux, il y avait des Indiens. De quand date l'arrivée des Indiens sur ce continent, Marie-Hélène Fraissé?
Alors, c'est une question qui est restée, et qui est encore, d'ailleurs, très, très controversée. C'est-à-dire que plus on cherche et plus on remonte loin dans le temps. Il y a même des sites à propos desquels certains archéologues avancent moins 40 000. Hein, mais c'est pas encore tout à fait établi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a au moins 15 ou 20 000 ans avant Jésus-Christ, enfin là on ne compte plus nos malheureuses petites 2000 années, qu'ils sont présents. Alors ils sont passés essentiellement par le détroit de Bering, qui à l'époque où il y a eu les vagues de migration, époque de grande glaciation, était assez franchissable. Alors évidemment, il faut pas imaginer des populations sibériennes s'avançant vers l'est en se disant nous allons vers les Amériques. Il s'agissait en fait de petits groupes de chasseurs qui vivaient du gibier et qui insensiblement se sont trouvés passés de l'autre côté au cours de leur chasse, de leur campagne de chasse.
Ils venaient d'Asie, en fait.
Tout à fait.
L'origine des Indiens est asiatique.
Alors, essentiellement, il y a certainement eu d'autres apports en plus faible quantité. Mais, par exemple, on s'est aperçu que le groupe sanguin majoritaire chez les Indiens était le groupe O, qui est également très présent chez les populations sibériennes et mongoloïdes. Donc, on a un certain nombre d'éléments. Alors, d'abord, ça s'est pas fait en une seule fois, c'est-à-dire qu'il y a eu des vagues de migration. Donc, sans doute, à partir de bassins de population en Asie qui étaient différents. Et puis, il y a eu d'autres apports. Et ça, on en est presque certain maintenant. Notamment, bon, si on prend l'Amérique du Sud, on est à peu près certain que sur la côte du Chili, il y a quand même eu des arrivages polynésiens. Et il y a cette grande question, notamment autour de ce fameux homme de Kennewick, qui tendrait à prouver ce qui d'ailleurs
c'est qui
était
l'homme de Kennewick.
Alors cet homme de Kennewick, c'est un cadavre qu'on a retrouvé, une sépulture qu'on a ouverte en 96. Et cet homme de Kennewick, puisque Kennewick c'est l'endroit dans l'État de Washington où on l'a trouvé, présente des traits caucasiens, comme disent les Américains, c'est-à-dire des traits européens. Alors ça a beaucoup troublé, c'est l'objet d'une intense polémique, et ça recoupe d'autres observations qui avaient été faites à partir de Pierre Taillé. Et on s'est demandé à ce moment-là s'il ne s'agissait pas donc d'un passage dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'Europe vers l'Amérique,
déjà,
en gros la route des Vikings, et qui aurait été effectuée par des individus qui ressemblent à nos solutréens, c'est-à-dire moins 19 000, moins 15 000.
En tout cas, à partir de cette date, à partir d'il y a 15, 16, 17 000 ans, au fond, tous ces peuples qui se répartissent dans l'ensemble du continent sont coupés du reste du monde, ils n'évoluent pas de la même manière, ils ignorent, vous le dites Marilyn Frayssay, l'existence du fer, de la roue, du cheval, évidemment aussi plus tard de l'arme à feu, jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb, le 12 octobre 1492, une date célébrée tous les 12 octobre, le jour du Columbus Day aux États-Unis, par tous les habitants des États-Unis, sauf quelques-uns, comme cet Indien Navarro, qui était à votre micro, Marilyn Frayssay, il y a 10 ans, pour le 502e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique.
Well, today is Columbus Day.
En effet, aujourd'hui, c'est Columbus Day. C'est une fête nationale, fériée aux États-Unis. Mais pour nous, les Indiens, c'est un jour de deuil. Nous, les Navajo, nous ne célébrons pas Columbus Day parce que l'arrivée de Christophe Colomb, ça a été le début de la fin pour les Indiens en général. Donc, nous ne célébrons pas. Ce n'est pas une fête pour nous. Quand Christophe Colomb est arrivé, il a amené avec lui la maladie. Il a amené tout ce qu'il y avait de pire. Donc, on ne voit pas ça comme une fête à célébrer pour nous.
Little is really known about the American Indian, or what links the human soul with the earth. The Indians believed that this land was created for them by the Great Spirit, and that it would be theirs forever.
Et c'était l'extrait d'une émission que vous avez faite pour France Culture en 94, Marie-Hélène Frayssay, un Indien Navarro, considérant le Columbus Day comme un jour de deuil, même si Colomb n'a jamais rencontré en fait d'Indiens d'Amérique du Nord. Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs du nombre qu'ils étaient quand Colomb est arrivé, quand on a redécouvert ou découvert ce continent? En Amérique du Nord, je précise, ceux dont nous parlons aujourd'hui.
On est encore incertain. Il y a les maximalistes qui diraient ils étaient 15 millions. Il y a ce qu'on croyait au début du XXe siècle, on disait 2-3 millions. Et aujourd'hui, on a fixé ça autour de 7-8 millions, ce qui est tout de même assez important. Mais à l'échelle du continent, ça veut dire quand même des populations assez dispersées.
Dispersées et divisées. Parce que, bon, ce qui les distingue aussi des Indiens d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, c'est qu'il y a des quantités de tribus indiennes. Est-ce que là aussi on a une idée du nombre de tribus qui existaient à cette époque-là?
Oh, écoutez, c'était incroyable la diversité. C'est, faut le rappeler quand même encore à l'échelle d'un immense continent. Et on compte aujourd'hui qu'il y a 400 langues encore aujourd'hui différentes. Donc sur le continent nord-américain. Donc c'est vrai que d'abord les modes de vie étaient formidablement diversifiés puisque ça couvre de l'Arctique jusqu'à au désert d'Arizona, du Nouveau-Mexique. Donc en parcourant des climats tempérés, il y a les rocheuses, les grandes plaines. Au nord-est, les forêts, les woodlands, comme on dit. Donc, ces populations avaient développé des modes de vie extrêmement divers à cause des différences de climat, puisque une fois arrivés au détroit de Bering, ils ont suivi les uns et les autres des parcours différents. Certains ont longé la côte pacifique, sont descendus vers le sud, donc se sont aventurés vers les plaines, donc en progressant vers l'est. Et puis après, ils se sont eux-mêmes divisés. Donc c'est une histoire extrêmement compliquée.
Une religion commune, malgré tout, sont tous animistes en fait.
Oui, commune,
si on
mais
peut parler de religion.
Oui, oui, c'est un rapport. Quel est le rapport, si vous voulez, du chasseur avec les éléments, avec le gibier dont ils dépendent. Donc c'est quelque chose qui, d'ailleurs, dont on retrouve les principaux éléments également en Asie. C'est des religions en gros chamaniques, même si le terme chamanique n'est pas amérindien, mais sibérien.
Vous dites chasseurs, c'est leur principale activité, ou pêcheurs éventuellement le long des côtes, chasseurs et notamment de bisons. Il y avait environ 8 millions de bisons encore au XVIIIe siècle, je crois, parce que le bison leur fournissait. Là, je parle des grandes plaines, hein. Il faut évidemment distinguer, comme
oui.
Vous dites, selon,
bah, y a le saumon,
selon les régions.
Il y a une ressource sur,
oui,
le Pacifique.
Dans le Pacifique, mais dans la Grande Plaine, c'est-à-dire au centre. D'ailleurs, les Indiens, qui seront les derniers à rencontrer les Européens, vivaient, eux, du bison qui leur fournissait tout, la peau, la viande, bien sûr, de quoi se fabriquer des armes avec leurs os. C'était aussi, ils vivaient au fond en autarcie, en réalité. Ils connaissaient pas tellement le commerce.
Si, justement, il y avait beaucoup de commerce à l'échelle continentale, et c'est pour ça d'ailleurs que les Européens ont été si bien accueillis. C'est que toutes ces populations avaient certaines, par exemple, des produits agricoles, les échangeaient contre des pots avec d'autres. Donc, il y avait un gigantesque commerce, réseau, de proche en proche. Et ça explique d'ailleurs pourquoi on a pu retrouver des épées vikings à l'intérieur du continent. On a cru que c'était parce que les vikings étaient allés jusque-là, mais pas du tout. C'est parce que les objets avaient cheminé par les réseaux de troc amérindiens. Et ces populations se mélangeaient au pourtour. Donc, c'est très intéressant de voir qu'ils étaient, mobiles et ouverts à l'autre.
Oui, vous dites justement bien accueilli, Marine Freissé. C'est vrai que ces rapports qui vont devenir exécrables avec les Européens ont plutôt bien commencé lorsqu'après les découvreurs, après Colomb, après les Espagnols, après les missionnaires aussi qui venaient pour les convertir, arrivent donc les premiers Français ou les premiers Anglais des premières colonies d'Amérique.
Seigneur Metacomet, sans la protection de votre père, jamais nous n'aurions survécu, ne serait-ce que notre premier hiver.
Look, ciao. Bill Nobegazi.
Tu es
Oulégué, aussi.
Le seul homme blanc
Don Parkinson
qui soit venu à nous
Mugwebo.
Avec un cœur ouvert.
Bon sabbat à tous. Frères et sœurs, amis et compagnons de voyage, pour le plus grand de tous les rêves. Voilà maintenant que nous avons été élus tel Israël en son temps afin de servir de modèle. Mais nous ne réussissons pas dans cette tâche, nous échouons dans cette tâche. Pourquoi ? Parce que nous envions pire encore. Parce que nous convoitons des biens qui ne sont pas à nous. À commencer par les riches terres de nos frères indiens.
Par appétit de gloire.
Par appétit de gloire.
Soif de profit.
Ou esprit de vengeance.
C'était un extrait du film « Les Amants du Nouveau Monde », l'histoire d'une colonie anglaise du Massachusetts au XVIIe siècle. Alors là, on n'a plus affaire effectivement à des découvreurs, à colons, à des missionnaires, à Christophe Colomb, mais à des colons, des colons anglais ou français en ce qui concerne le Canada. Et là, c'est vrai que les premiers contacts n'ont pas été mauvais. Il y a l'histoire, par exemple, de cette indienne Pocahontas qui sauve, je crois, John Smith, qui était un des premiers colons de Virginie. Il y a aussi le fait que dans ces colonies, les Indiens apportent du maïs aux premiers colons qui débarquent.
Oui, parce qu'il voit arriver des gens venus d'on ne sait où, sur la mer. D'ailleurs, il y a dans le livre que j'ai écrit, justement, des récits indiens qui racontent l'arrivée de l'homme blanc, des récits qui ont été transmis à l'intérieur des tribus. Alors évidemment, bon, ils se posent des questions sur ces gens-là, mais tout de suite, ils veulent échanger parce que c'est dans leurs habitudes. Ils pensent que ça va leur apporter un plus. Ces étrangers arrivent avec des objets très intéressants. Pour eux, une pointe de fer, c'est beaucoup mieux qu'une pointe en os ou en silex ou même en cuivre, puisqu'ils battaient le cuivre. Donc, ils ont l'impression au début que l'échange est intéressant pour eux. Et effectivement, il l'est. Mais le problème, c'est qu'après, ça va se gâter parce que de quelques dizaines ou quelques centaines, ces étrangers deviennent des milliers, puis des dizaines de milliers et gagnent du terrain. Et à ce moment-là, on piète sur l'espace des tribus.
L'échange contre quoi ? Parce que, inversement, que venaient chercher les Européens ? Vous dites que c'est essentiellement des fourrures. Hein. C'était ça la grande activité, au fond, une des très grandes activités des premiers colons européens, français ou anglais, en Amérique du Nord, notamment le castor.
Au départ, ils cherchent deux choses. Ils cherchent de l'or, des métaux précieux, puisque les Espagnols en ont eu, les Anglais et les Français aimeraient bien eux aussi. Ils cherchent aussi le passage vers toujours les fameuses Indes, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait un continent, maintenant faut le franchir. Alors on se demande comment on va le franchir. Et c'est comme ça que ils en arrivent à s'apercevoir qu'il y a beaucoup de fourrures, notamment au nord d'une certaine latitude. Et on s'aperçoit que c'est très intéressant d'échanger des objets, de la pacotille, des tissus, contre ces fameuses fourrures qui d'abord sont présentées en quelques dizaines. Et puis petit à petit, on noue des alliances avec les chasseurs. Et c'est comme ça que vont se créer les premières colonies du côté français. Les puritains, puisque vous parliez d'eux, d'ailleurs l'épisode qu'on a entendu se passe chez les puritains, ils ont une autre vision, eux, ce sont des dissidents religieux, donc ils veulent s'installer sur le continent nord-américain pour vivre selon leur conscience, et selon même leur bonne conscience, puisqu'on a entendu dans l'extrait du film quelque chose au fond qui est encore présent, on s'en rend compte tous les jours dans la conscience américaine, c'est d'être un exemple. Alors, étant un exemple, ils se trouvent confrontés à ces populations autochtones, avec lesquelles ils ont des rapports au départ d'obligés, puisque les autochtones effectivement leur donnent du maïs, ça les aide à survivre. Seulement, voilà, on a envie d'être terre, on va empiéter, il va y avoir un choc, puisque celui qu'on entendait dans votre extrait Métacomète, c'est le roi Philippe. Et le roi Philippe, ça va être quelqu'un qui va être l'objet d'une guerre, la première guerre en 1675, c'est la guerre, la fameuse guerre du roi Philippe. Donc très très vite, ça va friter, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'on veut les terres et que les Indiens, mettez-vous.
Ils n'ont pas le sens de la propriété, disait-on justement.
Ils n'ont pas le sens de la propriété. Au sens précis où nous l'entendons nous, c'est-à-dire d'une propriété délimitée qui m'appartient, que je transmets à mes enfants, mais ils ont quand même le sens d'un territoire sur lequel ils chassent, qui est l'objet de parcours. Et même si on est nomade, on n'est pas propriétaire, mais on a des habitudes d'un certain circuit annuel. Donc si quelqu'un vous empêche de faire ce circuit, de quoi vit-on si on ne peut plus aller à la...
Justement, ça va à l'encontre de l'idée que les Européens se faisaient, d'ailleurs c'est une idée biblique qu'on invoque constamment, se faisait la propriété, on est propriétaire que lorsqu'on met en valeur sa propriété. Les Indiens ne mettant pas à valeur la propriété, ça donnait le droit aux colons. Ça, c'est un argument qu'on a retrouvé plus tard.
Ailleurs qu'en Amérique, d'ailleurs.
Au Proche-Orient, en Afrique du Nord, on disait toujours, mais c'est parce qu'on cultive qu'on a le droit à cette terre. Évidemment, ce sont deux notions totalement contradictoires, Marie-Hélène Freyssinet.
Oui, tout à fait. Alors, dans la capacité que nous avons eue, nous, les Européens, de comprendre que l'autre, avec un grand A, avait un autre mode d'appropriation du territoire, on a trouvé que c'était dans notre bon droit de nous étendre et de les repousser. Mais il faudrait essayer d'imaginer l'inverse. Nous sommes chez nous, sur le bord de la Seine, et nous voyons arriver des gens qui nous disent maintenant Paris, ça s'appelle plus Paris, ça s'appelle de je ne sais quel nom barbare, et puis nous on s'installe là, et puis on vous repousse. Il faut inverser la vision.
Alors autre chose que découvrent les Indiens, outre le sens de la propriété, le faire, etc., c'est aussi, et c'est peut-être été plus grave encore pour eux que les guerres qui sont produites, ce sont les maladies, la variole, le choléra. Comment se fait-il que ces maladies, les Indiens en aient plus souffert que ceux qui les leur ont apportés d'Europe ?
Nous étions, si vous voulez, au cœur d'un continent qui était tout de même dans un plus grand brassage. Alors, je suis pas une spécialiste de l'épidémiologie, mais on était au cœur d'un beaucoup plus grand brassage, d'une plus grande diversité, parce que nous étions en contact quand même avec l'Asie, avec l'Afrique, nous allions sur la mer, alors que les Amérindiens, eux, étaient au contact de peu de germes. Et comme nous sommes arrivés, nous, d'une part, et nos animaux domestiques, avec des germes contre lesquels ils n'étaient pas immunisés, ça a été catastrophique, mais dans des proportions effarantes, puisque parfois, à 10 ans de distance, il y avait une personne là où il y en avait 10. 10 ans plus tôt. Donc ça a été vraiment une catastrophe qui explique aussi plus que l'éternel terme de génocide qui, je crois, c'est un terme qui ne s'applique que dans certains cas très très circonscrits sur le continent. Mais il y a eu un drame bactériologique.
Et bien il y a eu des guerres, mais alors des guerres pas forcément entre les Européens et les Indiens au début, mais des guerres entre les Européens qui ont utilisé les Indiens pendant les guerres anglo-françaises dans le nord-est des États-Unis au 18e siècle, avec les Iroquois du côté anglais et les Hurons du côté des Français de Montcalm.
Notre père Montcalm est meilleur dans l'art de la guerre que le général anglais. Les Hurons n'ont pas peur de la colère des Anglais.
Les Anglais nous vengeront.
Quand les Hurons connaîtront leur force, nous pourrons traiter à égalité avec les Blancs. Nous reprendrons nos terres. Nous prendrons les terres des Abénakis et les peaux des Osagis et des Sauk et des Fox. Nous ferons le commerce de l'or avec toutes les autres nations indiennes, pas moins que les Blancs et aussi fort que les Blancs.
Alors les Hurons feraient boire leurs frères algonquins pour les abêtir et voler leurs terres pour pouvoir les revendre aux Blancs? Les Hurons veulent donc accumuler les terres comme les Blancs le font?
Il a raison, vous n'en avez pas besoin.
Voilà la façon d'agir des Français et des Anglais. Les maîtres de l'Europe ont soif de richesses et de conquêtes. Magua a la haine en lui. Mais il veut imiter ceux qui ont mis la haine dans son cœur.
Et c'était un extrait du film Le Dernier des Mohicans qui, comme toutes les qui ont montré que pendant ces guerres franco-britanniques sur le continent au nord-est des États-Unis, on a mêlé les Indiens, on s'en est servi comme de mercenaires pendant ces guerres jusqu'en ce qu'en 1763, par le traité de Versailles, la France renonce au Canada, laisse tout l'ouest des États-Unis, des actuels États-Unis aux Anglais, et là, les Indiens se trouvent face aux Anglais, Marie-Hélène Freyssé.
Oui, ils se trouvent face aux Anglais seuls, et justement, alors il y a à ce moment-là un texte qui est très important, et je pense qu'on pourra en reparler demain, c'est que il y a une proclamation royale en 1763 qui est faite par le roi d'Angleterre et qui établit que c'est le roi qui traite directement avec les Indiens. Alors ça va contribuer à les rassurer, parce que ce que craignent surtout les Indiens, c'est pas tellement le pouvoir royal, c'est le petit colon. C'est le petit colon qui vient empiéter sur leur terre. Et ça va créer, si vous voulez, quelque chose qui est encore en vigueur aujourd'hui. Ça va être très intéressant de l'analyser. C'est que les Indiens ne parlent aujourd'hui qu'au président des États-Unis, pour les États-Unis, et qu'à Ottawa, pour le Canada. Ils considèrent qu'ils sont des nations et qu'ils n'ont pas à parler avec les responsables des provinces ou des États. Et bon, alors, effectivement, tentant de s'en tirer, ils s'allient avec les Anglais, certains, les Français, d'autres. Ils essayent de tirer désespérément leur épingle du jeu. Malheureusement, dans ces guerres-là, ils vont être totalement broyés.
Et après les Français, les Anglais, ce seront bien sûr les habitants, les Américains des États-Unis quand ils seront indépendants. Nous en parlerons justement demain avec vous, Marie-Hélène Freyssé, dans la deuxième partie de 2000 ans d'histoire consacrée donc aux Indiens. Mais en attendant, on peut lire votre livre, un très beau livre magnifiquement illustré, pourquoi pas un beau cadeau de Noël, Indien, qui a été publié aux éditions du Chêne. À lire également La Terre des Peaux Rouges de Philippe Jacquin, qui vient d'être réédité chez Gallimard dans la collection Découverte. Vous avez pu entendre des extraits des films 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott, Le Dernier des Mohicans de Michael Mann avec Daniel Day-Lewis, et Les Amants du Nouveau Monde de Roland Joffé, tous ces trois films étant disponibles en DVD. Marie-Hélène Freyssé, merci. Je rappelle que l'on peut vous retrouver aussi sur France Culture tous les lundis, c'est-à-dire cet après-midi à 15h, dans Tout un Monde, une émission sur les cultures du monde. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Edwin Caron, Benjamin de la Gâtinais, Claire Destacon.